Bonjour, salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue. Cette semaine, ça va sentir le voyage, l'horizon, l'amitié et surtout les arts à Point de vue. On se rend d'abord en Ontario où l'œuvre et la mémoire de l'écrivain antillais Frantz Fanon ont été honorés au TIFF.
Les films que nous faisons vont en droite ligne de notre mandat et de notre mission, qui est vraiment la construction identitaire, se reconnecter avec notre histoire, notre culture, notre pensée, d'autant plus que la pensée de Fanon est toujours d'actualité.
La jeune cinéaste Axel Houlet revisite L'étranger d'Albert Camus dans le court-métrage qu'elle signe.
Le frère étranger explore les notions philosophiques de l'absurde de Camus, bien sûr, et s'aventure aussi dans les thèmes psychologiques et psychanalytiques.
L'autrice de la Côte-Nord, Iliane Tremblay, publie son quatrième opus en autant d'années sous la pression de ses lecteurs.
C'est un projet de retraite que j'avais à cœur. J'ai toujours écrit, puis c'est pas mon dernier.
La Côte-Nord tend la main au Groenland et part en mission d'art actuel.
C'est bien de faire connaître notre centre. T'sais, on est le seul sur la Côte-Nord, donc de voir qu'on est capable d'aller chercher des homologues dans d'autres pays.
Le jeune chanteur néo-écossais Jacques Surette part en tournée pour promouvoir son quatrième album, alors que le groupe québécois K1 fait de même, mais pour dire adieu.
On voulait retrouver un peu nos prénoms, puis nos familles aussi, tu sais. Les familles ont écopé beaucoup au travers du temps.
Et adieu aussi, nous ferons, car le rideau tombe sur l'émission Point de vue qui quitte les ondes, ben ça, c'est nous. Bienvenue à Point de vue, une info locale partout au pays.
À l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue encore. Merci d'être là. Boris Chassagne avec vous pour les 30 prochaines minutes. D'abord, on fait comme si de rien n'était et de l'aveuglement volontaire. Et c'est sur cette pièce de Sunset de l'artiste Lonnie Liston Smith and the Cosmic Echoes qu'on lance le bal. Direction Toronto, où le mouvement pour l'inclusion des communautés racisées de l'Ontario au micro a fait son devoir de mémoire et honoré le grand écrivain martiniquais Frantz Fanon dans le cadre du TIFF Lightbox qui s'est conclu à la mi-septembre. Micro qui a organisé une projection privée du film Fanon réalisé par Jean-Claude Barny. Sa fondatrice, Elikia Doumbé, a, dit-elle, voulu rappeler l'actualité brûlante de ses idées. Annette Minka s'est entretenue avec Mme Doumbé et le public venu assister à la projection.
Ce qu'il faut déjà dire, c'est que depuis un certain temps, Micro veut apporter le cinéma comme outil d'éducation, outil pédagogique, outil de construction. Et nous prenons des films qui ont un sens. La première fois, nous avons fait venir le film, la série Empire africain, qui mettait en lumière quatre empires africains dans leur splendeur. Et puis nous avons également fait venir au TIFF, donc c'était notre premier passage au TIFF. Nous avons fait venir l'Afrique berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Et cette année, nous avons fait venir Fanon. C'était les films que nous faisons vont en droite ligne de notre mandat et de notre mission, qui est vraiment la construction identitaire, se reconnecter avec notre histoire, notre culture, notre pensée. Et pour nous, Fanon, c'était tout à fait d'actualité, d'autant plus que c'est la célébration de son centenaire cette année. Donc il était important pour nous de marquer ce centenaire-là, d'autant plus que la pensée de Fanon est toujours d'actualité.
À la sortie de la projection, les réactions étaient enthousiastes.
J'ai vraiment bien aimé le film. Très intéressant aussi le questionnaire à la fin. Et en plus, l'intervention du professeur, j'ai oublié son nom, mais qui était algérien et qui nous a vraiment pu nous donner du contexte sur l'après Fanon, ce qui s'est passé en Algérie, ce qu'il représente maintenant là-bas. Donc c'est vraiment très très intéressant.
Moi, personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Il y a quelques semaines comme ça, par hasard, j'ai découvert l'histoire de Frantz Fanon et j'ai pris toute une soirée pour la lire et voir ça comme ça en film. Ça produit encore plus d'émotions. Je ne sais pas si les faits se sont passés tels qu'ils ont été retracés. Peut-être ça a été même allégé, parce que quand on sait que les indépendances et la colonisation ne s'est pas faite de façon douce, c'est quelque chose que je recommande à 100% avoir.
Moi, je regardais le film et puis j'imaginais ce que le réalisateur avait pensé, ce qu'il avait motivé à vouloir retracer cette histoire et à vouloir nous la faire vivre en l'actualisant un peu, on va dire. Il y a des moments où j'ai ressenti de la colère. C'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on sait parce qu'on a lu, parce qu'on a étudié à l'école. mais c'est jamais pareil de le voir comme ça sur les écrans. Et j'étais contente que ce soit au TIFF, tu vois, au Festival International du Film de Toronto, et qu'on ait aussi notre place et qu'on ait aussi notre mot à dire, qu'on se retrouve là parmi tous les films qu'on vienne voir fanant. Donc cette histoire-là, qu'on parle de nous aussi, parce que nos jeunes, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de voir que ben, on est aussi important, parce que de passer un film comme ça au TIFF, c'est waouh. Et on vient pour cet effet waouh, et on apprend, et en même temps, on découvre tout sur son histoire. Et moi, je repars avec un truc pour dire, c'est ce que tu penses de toi que les autres verront. C'est ton regard que les autres voient en toi. L'aliénation, je veux dire, l'annihilation. Donc, il y avait des gens qui étaient là, on voit, c'est un hôpital psychiatrique, des gens qui, mais plus on les enferme, moins ils vont bien. Et on voit, on a vu comment est-ce qu'ils ont été transformés par une méthode, par quelqu'un qui a pensé que ben, c'est un homme comme moi. C'est ce qu'un peu ce que nos enfants vivent ici, dans des avec des situations de racisme dans les écoles. C'est eux qu'on prend après en train d'eux. On trouve qu'ils sont violents, on trouve qu'ils sont agressifs, mais c'est des choses qu'ils accumulent, c'est des choses qu'ils vivent et qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et donc, il faut qu'on trouve la place, il faut qu'on trouve des occasions de faire sortir tout ce que les gens pensent, de les aider à exprimer ce qu'ils ressentent pour qu'ils puissent s'émanciper.
Même constat pour cette participante qui souligne la résonance actuelle des luttes évoquées dans le film.
Ce qui me fait toujours sursauter, c'est cette espèce de l'étroitesse d'esprit de certaines personnes, cette espèce de racisme qui est omniprésent, en fait, de voir que, en fait, c'est une histoire quand même qui date de 1948 et jusqu'aujourd'hui. Donc, en fait, on se rend compte que les choses n'ont pas bougé et que les gens sont toujours aussi racistes. Et donc, on est toujours aussi aliénés, en fait, nous, les Noirs, malheureusement. Hein, mais c'est la réalité, aussi bien les Antillais que les Arabes ou même les Africains. Enfin, je dis les Africains. Afrique noire. C'est la même chose. On a tous le même problème, malheureusement.
Des thèmes qui touchent encore de plein fouet plusieurs pays.
Moi, j'ai beaucoup creusé en fait la thématique décoloniale, de l'intersectionnalité il y a maintenant environ 7 ans pendant mes études de master. Et Fanon, c'était vraiment une pièce maîtresse pour moi de mon mémoire de master qui était à l'époque sur l'importance des luttes intersectionnelles dans la façon dont on perçoit les femmes racisées en France et pourquoi cette théorie de l'intersectionnalité qui est quelque chose qui a été beaucoup théorisée enfin, dans les contextes américains était important pour nous et en France aussi.
Et plusieurs îles, dont la Guadeloupe, comme l'explique une employée de l'organisme PAGE.
Toute la partie de décolonisation, de choses qu'il faut réapprendre, désapprendre, défaire, reconstruire. Moi, c'est ce thème-là qui a le plus fait écho. Et du coup, ça fait encore écho à ce qui est en train de se passer aux Antilles, avec le corps d'école, et la façon dont tout le monde se comporte avec nous sur notre propre île, ce genre de choses.
Cet événement aura su mettre en avant le devoir de mémoire et amener les participants à réfléchir à leur identité culturelle. L'une des missions de MICRO, le mouvement pour l'inclusion des communautés racisées de l'Ontario, qui promeut également la résilience et l'engagement citoyen à travers des espaces d'échange, des ateliers éducatifs et des projets culturels. C'était un reportage d'Annette Menica pour l'IGL à Toronto.
On poursuit sur la même veine en mélangeant littérature et cinéma, mais à Winnipeg cette fois, où la jeune cinéaste franco-manitobaine Axel Houlet a présenté son court-métrage « Le fruit étranger », un court inspiré de l'œuvre « L'étranger » d'Albert Camus, ceci dans le cadre de la 8e édition du Festival du film africain du Manitoba, un rendez-vous cinématographique qui a présenté du 15 au 21 septembre dernier une quarantaine de films de réalisateurs manitobains et étrangers. Axel Houlet a été l'une des révélations de ce festival. Le court-métrage de Madame Houlet a été présenté au Musée des Beaux-Arts de Winnipeg, le Winnipeg Art Gallery, ou le WAG. James Olivier l'a rencontré.
C'est inspiré du roman « L'étranger » d'Albert Camus, auquel le film fait directement référence. Alors, « Le fruit étranger » explore les notions philosophiques de l'absurde, de Camus bien sûr, et s'aventure aussi dans les thèmes psychologiques et psychanalytiques d'inspiration freudienne. Donc, on parle du subconscient, les rêves comme espace d'expression intérieure et le fantasme comme mécanisme de défense. Le film questionne la conscience, la perception et la réalité, des trucs comme ça.
Étudiante en arts cinématographiques à l'Université de Winnipeg, Axel Oulet, âgé de 20 ans, nourrit de grandes ambitions pour sa carrière professionnelle. Le fruit étranger est son deuxième court-métrage.
Mais c'est le premier vraiment que je montre comme ça au public, à un plus grand public. J'aimerais continuer à créer. Je suis actuellement en train de produire ou réaliser d'autres courts-métrages et j'écris toujours des scénarios. Donc, dans le futur, il y a même un court-métrage que j'ai réalisé il y a 2 semaines, que je suis en train de monter tout de suite, qui sera projeté au festival Black Film Collective Festival au mois de novembre. Et ça, c'est un peu différent, c'est comme une comédie. Donc,
Axel Oulet a un début de carrière assez passionnant. Elle a notamment travaillé comme animatrice et journaliste à la radio communautaire du Manitoba et au journal La Liberté. Avec Le Fruit étranger, elle est finaliste d'un concours de court-métrage qui récompense les cinéastes noirs du Manitoba.
Ça s'appelle le Best Film Competition, Best, un acronyme pour Black Emerging Screen Talent. Donc ça met en avant des cinéastes noirs ici au Manitoba. Et puis c'est encore au WEG, mais là c'est le 27 septembre à 17h. Et puis il y aura non seulement la projection des courts-métrages, mais aussi une session questions-réponses avec les réalisateurs. Et puis là, c'est vraiment, on invite le public parce qu'il y aura un vote sur place qui va déterminer le gagnant. Donc, je vous donne rendez-vous samedi aussi, le 27 à 17h, si vous voulez venir voir et soutenir.
James Olivier, IGL, Winnipeg.
Culture toujours en retourne au Québec, là où l'autrice Eliane Tremblay vient de publier son 4e roman en autant d'années. Originaire des Escoumins, Eliane Tremblay a dévoilé son 4e roman intitulé « Né à Pishkawapi, le retour, tombe 2 » le 17 septembre. Madame Tremblay dit avoir succombé aux pressions exercées par ses lecteurs. Pour y replonger, Maxime Jaudoin lui a tendu son micro.
C'est la suite du premier volume qui s'appelait « Mystère à Niépisco ». Maintenant, on a Niépisco, il n'y a plus de mystère. On a résolu le mystère dans le premier. Et c'est « Wapi le retour ». Niépisco, Wapi le retour. C'est un personnage du premier livre que j'ai fait vieillir. Et puis, c'est sa vie à lui qu'on va découvrir, qu'on va suivre avec engouement, je pense. Puis qui est, je vous dirais, assez réaliste. Depuis 4 ans, je vous dirais, j'en ai sorti un par année. C'est vraiment plaisant. C'est un projet de retraite que j'avais à cœur. J'ai toujours écrit, mais là, vraiment, j'y vais dans toute la splendeur de l'écriture. J'explore, j'étudie encore, je prends encore de la formation. C'est génial, puis c'est pas mon dernier. C'est formidable.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
On prend maintenant la direction du Groenland. La directrice générale de Panache Art Actuel, Julie Godin, et la coordonnatrice artistique Catherine Arsenault se sont envolées vers ce vaste territoire nordique. Leur but avoué est de jeter, avec leur vis-à-vis de l'étranger, les bases d'un programme de résidence artistique et scientifique. Ceci avec la collaboration de différents sites nordiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le parc Assis vu suite Nipissat de Sisimiut, oui, du Groenland. Elles y sont jusqu'au 1er octobre et visiteront d'abord 2 villages groenlandais avant de se déplacer vers Copenhague au Danemark. Marie-Ève Dussablon à tête à la baleine au Québec.
Le Centre d'artistes Panache Art Actuel, seul centre d'artistes autogéré sur la Côte-Nord et la région de biosphère Manicouagan-Wapishka posent leur regard vers le Groenland. Depuis quelques jours, la directrice générale et artistique Julie Godin ainsi que la coordonnatrice artistique Catherine Arsenault se trouvent sur ce territoire nordique. Leur objectif? Jeter les bases d'un programme de résidence artistique et scientifique en collaboration avec différents sites nordiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un premier séjour exploratoire qui se déroule jusqu'au 1er octobre. Catherine Arsenault raconte d'où est née l'idée du projet.
On a fait une première collaboration avec la région de biosphère Manicouagan-Wapishka, la RBMU, en 2024. On a fait une première résidence avec des artistes à la station Wapishka. Ce qui était intéressant, c'est que l'organisme avait des valeurs similaires aux nôtres pour ce qui est de préservation de l'environnement, contact avec les Premières Nations, sciences, changement climatique, etc. Donc, puis eux, il y avait un bâtiment d'accueil avec la station Wapishka. Fait qu'on a pu envoyer des artistes là pour une première résidence. On a envoyé 3 artistes, puis ça a été vraiment super comme contact puis comme réseautage. Puis, suite à ce projet-là, il y a eu une conférence avec d'autres pays nordiques qui sont membres de l'UNESCO, d'autres sites nordiques, et ils ont entendu parler de notre résidence artistique. Et ça a fait du chemin, c'est devenu un workshop dans le cadre de leur conférence. Et la première personne qui a levé la main pour dire « Hey, moi, ça m'intéresserait vraiment d'aller de l'avant avec ça », c'est quelqu'un du site Assisimut de l'UNESCO. Okay. Donc,
du Groenland.
Oui, au Groenland, exactement.
À partir de là, Panache Art Actuel a travaillé activement pour donner vie à ce voyage. Les deux représentantes visiteront notamment 2 villages du Groenland avant de partir vers Copenhague. Julie Godin, de son côté, souligne tout le potentiel de ces échanges.
Quand même quelques rencontres là, avec des intervenants du milieu culturel, du milieu scientifique, dans 2 villages au Groenland. Donc, on débarque en premier à Nuuk. Puis après ça, on s'en va à Sisimiut. On va aller visiter le parc UNESCO qui est comme notre hôte d'accueil. Puis après ça, on va passer 4 jours à Copenhague pour aller rencontrer d'autres intervenants là, du milieu culturel.
Elle ajoute que ces résidences croisées permettraient également de faire rayonner la Côte-Nord à l'international.
Juste, cette semaine, on a fait l'annonce sur nos réseaux sociaux, puis tout le monde est déjà emballé, puis il n'y a pas de promesse de résidence là, au bout de ce voyage-là. Là. Le but, c'est d'aller voir si c'est possible. Fait que je pense que juste... Le questionnement de « est-ce que c'est possible » réveille déjà plusieurs artistes là, qui sont emballés par le projet. Là. Donc, je pense que oui, pour le rayonnement, c'est important. Puis, c'est bien de faire connaître notre centre. Tu sais, on est le seul sur la Côte-Nord, donc c'est de voir qu'on est capable de... Bon, ben on est capable d'aller sur notre territoire, oui. On est capable de se déployer un peu partout, mais on est capable aussi d'aller chercher des contacts puis des homologues dans d'autres pays qui peuvent venir nous aider à faire bouillir un peu la créativité.
Ici Marie-Ève du Sablon pour l'IGL, à tête à la baleine.
L'auteur, compositeur, interprète Jacques Surette vient de lancer son 4e album, Les Vieux Chapeaux. Il a été réalisé par Charles Robichaud et enregistré à la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Jacques Surette va, dès cet automne, le présenter d'ailleurs au public de 4 provinces du pays. Lui qui rendra aussi visite aux élèves des écoles de la Nouvelle-Écosse en novembre et en décembre. Daniel Aucoin lui a parlé.
Smooth sailings à travers le style Reset. Les autres, j'avais commencé à travailler sur ça, cette. Comme équipe dans le mois de mai. Puis toutes les chansons et faites qu'il y a sur cet album-là, c'est des chansons que j'avais écrites dans le passé. Puis c'est ce fait que j'avais appelé les vieux chapeaux à cause qu'il y en a des plus nouvelles et il y en a des plus vieilles. Mais ils se sont toutefois composés dans les derniers 2 ans et 7. Ça fait mis ensemble, commencé à créer ça dans mes...
Comment important que c'était pour toi de réaliser l'album à la baie Sainte-Marie avec des artistes, des musiciens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse?
Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai grandi dans ces boutissettes-là, puis comme tous les autres albums, je les avais soit fait en Nouveau-Brunswick ou en Québec, puis j'étais tout à une grande distance de chez nous. Ça se fait... Cette fois, c'était vraiment convenient pour moi, parce que tout était encore à bonne distance. Tu sais, puis tout le monde que je travaille avec, c'est tout du excellent monde qui travaille dans le domaine de musique. Il y a Daniel Leblanc qui jouait avec grand arrangement dans le passé, lui qui va jouer du violon. Et puis il y a Charles Robichaud qui est un autre musicien qui est bien connu de la région, qui est celui qui co-produce. Ça fait c'était vraiment, vraiment cool de travailler avec tout ce monde-là dans mon point de vue.
D'écouter Point de vue.
L'un poursuit sa carrière, mais pour le groupe Caïn, c'est la fin. Caïn qui lance sa longue tournée d'adieu après avoir passé 25 ans à faire vibrer les scènes du pays. Le groupe fera de son 9e album le dernier. Le bassiste Éric Maheu souligne, et je cite, « l'importance de clore cette aventure musicale de façon digne. Nous voulions dire adieu dans le respect de notre public et de notre histoire. Après toutes ces années, il était essentiel de partir sur une note forte, sans diluer l'essence du groupe », explique-t-il avec émotion. La tournée s'amorce dès cet automne 2025 et va se conclure en décembre 2026. Caïn va s'éteindre avec son 9e album, donc La Cour des Grands, une façon, selon le bassiste Éric Maheu, de rendre hommage aux influences qui ont façonné leur identité musicale. Il est ici au micro de Sébastien Ladouceur.
On est très nostalgique, c'est le gros rush des médias. Écoute, l'annonce a eu un impact au-delà de ce qu'on pensait. C'est des mixed feelings, comme on dit. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait partie de l'histoire de Caïn, des beaux témoignages, des souvenirs. Écoute, c'est un beau mélange d'émotions de ce temps-ci. Faut focusser sur ce qu'on a vécu. Puis sur ce qu'on va vivre pour un an et demi, on a notre booker qui nous a appelé, notre agent de spectacle qui est débordé complètement. Tout le monde veut une petite partie de Caïn avant qu'on s'en aille. Aller revoir le monde le plus qu'on peut dans les régions où est-ce qu'on a trippé. C'est presque la totalité de ma carrière. Avant ça, il y avait eu la chicane, Noir Silence, Caïn qui a fait partie de mon quotidien. J'ai été plus souvent le gars de Caïn qu'Éric Maheu, puis je pense que Steve, c'est la même chose, puis on voulait retrouver un peu nos prénoms, puis nos familles aussi, tu sais, les familles ont écopé beaucoup au travers le temps, puis on veut revenir à la source, puis essayer de se racheter là-dessus, puis de nos demi-présences et nos absences, fait que je pense que ça va être un baume sur tout ça. Faut juste que je trouve mon équilibre, que je parte pas en peur, puis que je choisisse.
Bon, nous, on n'a pas choisi, mais c'est néanmoins le temps de faire comme eux, comme Caïn, et de vous dire au revoir, de vous dire adieu. Permettez-nous de prendre le temps de remercier tout le monde. D'abord, nos journalistes de cette dernière émission que sont Daniel Aucoin, Annette Minka, James Olivier, Maxime Jaudoin, Marie-Ève Dussablon et Sébastien Ladouceur. À ma proche collaboratrice, Julia Chénu, rédactrice nationale. Julia, qui a travaillé derrière ce micro et dont je salue la finesse d'esprit et le professionnalisme. Ça a été une soie et une joie de travailler à tes côtés, Julia, cette dernière année. On aurait souhaité plus. Julia, que j'ai d'abord connue comme journaliste, puis maintenant comme rédactrice nationale, elle tenait même de loin à nous dire un dernier mot, elle aussi.
Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est la DER. La dernière de Point de Vue et de son pendant anglais Viewpoints. J'espère que vous aurez eu plaisir à écouter ces sujets venant des quatre coins du Canada, comme nous avons eu plaisir à vous les présenter. Un grand merci à tous ces journalistes qui ont su nous informer et surtout vous informer. Et un grand bravo pour ce travail effectué ces dernières années, ces heures de recherche, ces contacts noués et ces sujets livrés. Et bien évidemment, un grand merci également à Boris Chassagne, à l'origine de l'émission et qui l'a géré d'une main de maître. Ce n'est qu'un au revoir, je vous souhaite une très bonne dernière écoute. C'était Julia Chenu, rédactrice nationale pour le programme IGL.
Merci beaucoup, Julia. Et on ne pouvait conclure cette édition de Point de vue sans saluer, pas du fond du cœur, mais bien du fond de l'âme, tous les auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, musiciennes qui nous ont prêté leur art en toile de fond afin de colorer nos commentaires et reportages toutes ces années. Pour moi, cette émission n'aurait jamais été la même sans eux. Il ne faut jamais, à mon avis, sous-estimer le pouvoir et les bénéfices de la musique. Alors à eux, artistes d'ici, d'ailleurs, méconnus ou pas, un immense merci. Vous êtes là jusqu'à la fin. Et c'est avec « It's only a little loneliness » de David Miles que nous allons passer ces derniers instants à Point de vue. Point de vue qui vous a été présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire, l'initiative de journalisme local qui nous ont donné ce micro. Merci à votre radio, oui, celle que vous écoutez et que nous estimons. Salutations aux directions générales de la programmation des 40 stations qui nous ont diffusé ces 3-4 dernières années. Merci. Et encore à vous, auditeurs, auditrices, Maurice, d'avoir été là. Prenez soin de vous et des autres si possible. Je vous laisse avec les voix de nos journalistes qui ont peuplé mon imaginaire et mes semaines avec le fruit de leur travail, avec leur curiosité. Près de 4 ans à m'instruire, à découvrir le Canada grâce à vos reportages. Vous étiez au fil des ans près de 80 à peupler les ondes. On vous laisse les derniers mots.
Vincent Lavoie à Miramichi.
Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chitika.
C'était Maxime Jaudoin, CHME Haute-Côte-Nord, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
C'était Guillermo Tolosa à Embrun pour IJL.
Rose Kresla, journaliste IJL à Embrun.
Élisabeth Séguin à Fermont.
Camille Danier, Boréal FM pour l'IJL.
C'était un reportage d'Annette Minka pour l'IJL à Toronto.
Ici Sébastien Caron pour IJL à Saint-Jean.
Pierre Gill, initiative de journalisme local, Mushtouyats.
Michael Robitaille à Edmundston pour IJL.
James Olivier, IJL, Winnipeg.
Winnipeg, Gaël Pouilloux pour IJL.
Sébastien Ladouceur, Saint-Quentin, IJL.
Ici Marie-Ève Dussablon pour l'IJL à Tête à la Baleine.
Robert Bernard, IJL, Louisville.
Toby Germain, à Gaspé, pour Initiative de journalisme local.
Alice Zanetta, pour IJL, à Québec.
Robert Savard, IJL, Shawinigan.
Gabriel Poulain, Ottawa.
Ici Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'Initiative de journalisme local.
C'était Nathan Gagné pour l'Initiative de journalisme local à Kapuskasing.
Gravelbourg, arrêté Denis Aguirre, IGL.
Un reportage de Lisa Mansouri, initiative de journalisme local, Pokemouche, Nouveau-Brunswick.
Ici Jody Lisalier, au Nouveau-Brunswick.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Ici Yasmina Dagri.
Ici Sébastien Beltran à Halifax.
Ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario.
Ici Frédéric Lévesque à Tête à la Baleine, au Québec.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin.
Bonjour à toutes et à tous, ici Marine de Toronto en Ontario et vous écoutez Point de vue.
Bonjour, ici Caroline Lavertu à Edmundston au Nouveau-Brunswick.
Et Raphaël Hensley-Vincent à Tête à la Baleine.
C'était Julia Chenu pour C98 à Halifax, membre du réseau IJL.
Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.
Merci tout le monde, et de moi à vous toutes et tous ce matin-là du groupe Air. Ciao.